Chers membres, chers amis de la Société d'Histoire et d'Archéologie, l'épidémie de Covid-19 ne nous permet toujours pas d'organiser notre réunion mensuelle. C'est pourquoi je vous propose, pour ce mois de janvier, deux petites histoires qui se déroulent à la prison de Saint-Jean de Maurienne au XVIIIe et au XIXe siècle. La première est intitulée « On ne plaisante pas avec la paternité ». L'histoire se passe en 1842. Jeanne B., femme de Joseph Ancenet, est en prison depuis le 25 mars 1841. Elle a été condamnée à un an d'enfermement pour commerce illicite et donc incarcérée dans les royales prisons de Saint-Jean de Maurienne. Au XIXe siècle, le terme de commerce illicite est utilisé dans deux cas. Le premier, que l'on peut qualifier de commerce de subsistance, consiste souvent à vendre des vieux vêtements, de la ferraille ou de vieux outils à une clientèle modeste. C'est un commerce essentiel en raison de ses prix bas pour toute une population plus ou moins indigente qui trouve le moyen de se vêtir convenablement. Alors ce commerce est combattu par les autorités au XIXe siècle sous la pression des marchands établis qui payent leurs impôts et sous celle des hygiénistes qui voient dans cette pratique une menace à la santé publique et des risques de propagation des épidémies. Il faut dire que nous sommes 10 ans après la première grande épidémie de choléra en Europe qui se passe en 1832. La deuxième définition de commerce illicite signifie ce qui est défendu par la morale ou la loi. Et c'est cette définition qui nous intéresse pour cette affaire. Le 9 janvier 1842, soit 9 mois et 15 jours après son entrée dans la prison, Jeanne B. accouche dans la soirée d'un enfant viable sur la paillasse qui lui sert de lit dans un des cachots vétustes réservés aux femmes dans l'établissement pénitentiaire de la ville de Saint-Jean de Maurienne, établissement qui est situé dans le quartier du Tabellion. Dans le procès-verbal rédigé par Charles Pampionne, le concierge des prisons, il est écrit « Quoique semblable retard ne soit pas un phénomène bien rare, il n'est cependant pas ordinaire, et dès lors, il donne lieu au soupçon d'une conception vicieuse, surtout que cette femme est détenue pour inconduite, en fait elle n'habitait plus avec son mari. » Il y a donc lieu de contrôler si cette femme n'aurait pas eu des relations illicites avec des employés de la prison ou avec d'autres personnes comme un prisonnier ou un visiteur. La prison de Saint-Jean de Maurienne est connue pour son mauvais état et pour les difficultés récurrentes à y maintenir une certaine discipline. L'avocat fiscal de la cité de Maurienne, Spectable Boutaz, demande le 13 janvier suivant au juge instructeur André Dunant de bien vouloir enquêter sur cette affaire. Le juge commence ses investigations 5 mois plus tard par l'audition de la jeune femme. Le premier interrogatoire a lieu le 22 juin dans l'auditoire des Royales Prisons en présence de l'avocat fiscal et de Messire Fraiset, substitut greffier qui rédige le procès verbal. La prisonnière est amenée devant les juges par un soldat de justice. Après l'avoir dûment remontrée et assermentée sur le fait d'autrui à teneur des royales constitutions, le juge l'a comminée de dire la vérité à peine d'amende. Il commence son interrogatoire par ce qu'on appelle à cette époque les généraux interrogats, ce qui correspondrait maintenant à l'identité de la personne. « Je me nomme Jeanne B., fille de feu Antoine B., femme de Joseph Ancenet, et je suis détenue dans les royales prisons pour commerce illicite avec le nommé Jean-Pierre Rambaud. Je suis âgée de 26 ans. » La question à laquelle doit répondre le juge consiste à savoir si la grossesse date d'avant l'emprisonnement ou si la conception a eu lieu pendant le séjour en prison. L'interrogatoire se poursuit. À l'époque de votre incarcération et de votre traduction dans les prisons, demeuriez-vous ou cohabitiez-vous avec votre mari? Non, monsieur le juge, je me suis marié il y a 10 ans avec Joseph Ancenet et nous cohabitions alors chez mon père. Mais nous nous sommes séparés il y a 5 ans environ maintenant et je vis maintenant chez ma sœur. Elle ajoute alors, mais mon mari continuait à venir me voir par intervalle, passant avec moi 2 ou 3 nuits. Les juges se regardent d'un air entendu. La loi dit que les époux ne peuvent, même d'un commun accord, se séparer sans y être autorisés par le juge ecclésiastique. Et dans le cas où ils se seraient séparés sans cette autorisation, l'autorité civile donne les dispositions nécessaires pour leur réunion. Il est donc évident aux yeux de la loi qu'il s'agit d'une femme de mauvaise vie, puisqu'elle a contrevenu à cette loi. La justice n'apprécie pas cette attitude à cette époque. La jeune femme est mal à l'aise. Elle est impressionnée par ces messieurs de la justice. Elle précise « Il est notamment venu quelques jours avant mon arrestation. » Le juge, indigné, surpris par la réponse, « Mais je croyais que vous viviez maintenant chez votre sœur avec votre nouveau compagnon. » Jeanne ne sait plus quoi dire. Elle est déjà condamnée pour inconduite et ne veut pas aggraver sa faute. Le juge insiste. « Étiez-vous grosse au moment de votre incarcération ?»« Oui, monsieur, » répond Jeanne, qui précise, « mais du fait de mon mari, hein, car il est venu, comme je vous l'ai dit, passer quelques jours avec moi, et il a partagé mon lit, et je n'ai eu de commerce qu'avec lui. » Le juge, vous auriez ainsi porté votre fruit plus de 15 jours au-delà du terme? Votre assertion ainsi ne paraît pas probable. Monsieur, sauf votre respect, un semblable retard est encore assez fréquent et j'en ai vu assez d'exemples. L'interrogatoire est terminé. Le procès-verbal est établi par le substitut greffier. Les présents le signent, sauf Jeanne qui fait sa marque étant illettrée. Pendant que l'on reconduit Jeanne dans la cellule qu'elle partage avec d'autres prisonnières, un soldat de justice introduit dans le parloir une autre détenue que le juge a convoquée. Joseph R., veuve de Georges Tergarelli, est incarcérée pour vol et condamnée à 2 ans d'emprisonnement. Elle dit être âgée de 40 ans. Le juge lui demande si elle s'est aperçue de la grossesse de Jeanne B. et depuis quand. Elle répond « C'est seulement dans le courant de l'hiver je m'en suis aperçu. J'ai d'abord eu quelques doutes à cet égard, avant même que cette femme en eût fait la déclaration formelle, pour le motif qu'elle n'avait pas ses règles. Avec d'autres détenus, nous l'avions questionnée sur cette absence et elle nous avait avoué qu'elle était enceinte. Oui, mais de qui? Ah, je ne lui ai pas demandé et elle ne me l'a pas dit. » Vous seriez-vous aperçu que la dite Jeanne B. ait eu des relations, soit avec des employés de la prison, soit avec d'autres personnes du dehors? Alors, je ne me suis pas aperçu de pareilles relations de sa part. Je n'en ai même pas eu la pensée pour le motif que je ne l'ai jamais vu entrer, soit dans la conciergerie où ont lieu les visites, soit dans d'autres pièces isolées du local où nous nous trouvions. Je l'ai toujours vu constamment avec nous. L'accouchement tardif de Jeanne B. n'aurait-il point donné lieu entre vous à quelques propos? Non, monsieur le juge, par ce retard ne présente rien d'extraordinaire, dans la supposition qu'elle fut enceinte depuis l'époque seulement de son incarcération. Lecture est faite à Joseph de sa déposition. Elle dit y persister et fait sa marque étant illettrée. Une deuxième détenue est alors introduite dans le parloir. « Je m'appelle Jeanne-Françoise, feu Ignace G., femme d'Alianaz Henri. Je suis âgée de 29 ans. Je suis née à Genève et détenue pour 2 ans dans cette prison pour commerce illicite. J'ai environ 9000 livres de fortune. » Le juge lui pose les mêmes questions qu'au témoin précédent. Elle donne les mêmes réponses, ajoutant qu'elle avait soupçonné la grossesse peu de temps après l'arrivée de Jeanne, devant les malaises, l'absence de règles et l'air de Jeanne. Une autre prisonnière, Christine C., fait la même remarque. Elle ne trouve pas non plus anormal un retard de 15 jours pour accoucher. Les juges quittent la prison. Ils ne reviennent que le 22 août. Ce jour-là, ils convoquent Cyprien Feu Claude Salier, qui déclare être originaire de Saint-Colomban-des-Villars, âgé de 56 ans, et il est soldat de justice à la prison. Le juge André Dunant l'assermente et lui demande « Jeanne B. n'est-elle pas accouchée dans ses prisons plus de 9 mois après qu'elle y ait été incarcérée ? Et ce fait n'aurait-il pas attiré votre attention ?» Cyprien Salier répond « Il est vrai que la détenue dont vous me parlez est accouchée dans ses prisons plus de 9 mois après qu'elle y ait été détenue. Mais comme elle avait dépassé le terme que de quelques jours, cela ne m'a pas frappé. » Semblable phénomène se produit assez fréquemment. Cette femme aurait-elle déclaré du fait de qui elle soit accouchée ? Alors, elle ne l'a pas déclaré d'une manière formelle, mais voyant qu'elle dépassait le terme, je lui en fis la remarque un jour, en plaisantant, et je lui demandai à qui elle donnerait cet enfant. Elle me répondit « Il est à son père ». Le soldat de justice confirme ensuite qu'il paraît impossible que cette femme ait eu des rapports charnels en prison, car elle ne quitte jamais le local destiné aux femmes, dans lequel n'entrent que les employés de la prison et les magistrats chargés de la surveillance, mais ces visites sont toujours faites en présence du concierge et d'un soldat de justice, et toujours en présence de plusieurs autres femmes détenues. La suite de la déposition est plus intéressante. En effet, Cyprien Salier ajoute « Lorsque la dite femme, Jeanne B., fut traduite dans les prisons, ou du moins je me reprends, lorsqu'elle vint se constituer prisonnière dans le courant du mois d'août l'année dernière, elle était accompagnée de son complice, Jean-Pierre Rambaud de Saint-Georges-d'Urtière, et de son granger. Le dénommé Jean-Pierre m'a déclaré qu'ils avaient couché la veille à la Belle Étoile, dans un champ, sous une gerbe de blé à la chambre. Il est possible que la grossesse date de cette nuit. Le soldat sort après avoir fait sa marque sur sa déposition, car il est lui aussi illettré. Pierre Bonnel, un autre soldat de justice, entre. Je m'appelle Pierre, fils de Barthélémy Bonnel. Né et habitant en cette ville, je suis soldat de justice de profession et âgé de 31 ans. Les propos qu'il tient sont les mêmes que ceux du témoin précédent. Il explique que depuis l'accouchement de cette femme, les soldats de justice ont fait quelques plaisanteries à ce sujet, à son complice Jean-Pierre Rambaud, également incarcéré dans la prison. Ce dernier leur aurait répondu qu'il ne s'était pas trouvé seul en route avec Jeanne B., puisque son granger se trouvait avec eux, ce qui avait empêché tout commerce entre les deux amants. Il ne tient visiblement pas à assumer la paternité de l'enfant, qui est toujours aussi obscure pour les juges. À toute fin, le juge et l'avocat fiscal demandent à leur collègue d'Aigbel de convoquer le granger pour qu'il confirme sa présence, ainsi que l'absence de commerce charnel pendant le voyage, et lui demander aussi si la sœur de Jeanne B., qu'il connaît bien, ne lui aurait pas fait quelques confidences sur ce sujet. L'interrogatoire a lieu le 23 octobre devant Joseph Curtet, avocat et juge du mandement d'Aigbel, en l'absence du procureur fiscal et du substitut greffier Étienne Montaz, qui assume la fonction de secrétaire. Le témoin, âgé de 44 ans, agriculteur né à Villard-des-Ry et domicilié à Saint-Alban-d'Urtière, confirme que n'ayant pas quitté ses compagnons de voyage la nuit du 24 août, ils n'ont pas pu avoir de rapport charnel, car, dit-il, nous avons dormi à la chambre, chez l'aubergiste Émieux, où nous avons couché tous les trois dans la même chambre, Jean-Pierre et moi dans un lit, et la dite Jeanne dans un autre. Il n'est manifestement plus question de nuit, à la Belle Étoile, sous une gerbe de blé. Lorsque le juge lui demande si la dite femme Jeanne B. n'aurait pas vu dans les prisons pendant sa détention quelque individu du dehors, et si sa sœur ne lui aurait point fait quelques confidences à cet égard, il répond que la sœur de Jeanne est bienvenue boire avec elle dans la prison et que les deux fois elle se trouvait à côté de la porte de la cellule où se trouvait son complice Jean-Pierre Rambaud, avec qui elle buvait, mais la porte était fermée et il se passait le verre à travers le guichet. Le concierge des prisons, Charles Pampionne, est alors interrogé. Dûment remontré et assermenté, il dépose « Le fait dont vous me parlez a déjà dans le temps fixé mon attention. Toutes les détenues que j'ai questionnées m'ont déclaré qu'elles s'étaient aperçues de la grossesse de Jeanne B. peu de temps après son incarcération et que de prime abord, elles l'avaient présumé parce que cette femme n'avait pas de règles. L'accouchement tardif ne l'a pas non plus interpellé, car Jean-Pierre R. lui a affirmé que Jeanne B. avait eu affaire avec son mari quelques jours avant son incarcération. Le dernier personnage convoqué est le docteur Antoine Motard. L'entretien se déroule dans le bureau du juge André Dunan, en présence de l'avocat fiscal Boutaz et du substitut greffier Frizet. « Docteur, quel est le temps ordinaire de la grossesse d'une femme? Le temps se prolonge-t-il quelquefois et combien de jours ?» Le docteur Motard répond « Le temps ordinaire de la grossesse d'une femme est de 9 mois. Mais les grossesses peuvent quelquefois se prolonger jusqu'à 10 et 11 mois, et rarement plus tard, bien que cela se rencontre dans quelques circonstances physiologiquement inexplicables. » Perplexe, le juge insiste. Un prolongement d'une quinzaine de jours se rencontre-t-il très souvent? Oui, ils sont fréquents. Le 10 février 1743, le juge estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre ultérieurement pour le fait résultant de l'accouchement de Jeanne B. dans les royales prisons de la ville et qu'il est le cas de renvoyer la cause par devant le Sénat pour être statué ainsi. Vu que l'accouchement tardif de Jeanne B. détenue dans les royales prisons de Saint-Jean-de-Maurienne n'offre en lui-même rien de bien extraordinaire, vu que l'expert Motard a déclaré que le retard de ce genre sont fréquents, vu d'autre part que les informations prises n'ont fourni aucune trace de délit, nous concluons en conséquence à ce qu'il plaise au Sénat déclarer qu'il n'y a lieu à ultérieure poursuite en raison du fait dont il s'agit. L'enfant, un garçon prénommé Jean, sera déclaré à Saint-Alban-d'Urtière par son oncle maternel. Il aura pour parrain le grand G et pour marraine la sœur de Jeanne B. et il porte, ainsi que veut la loi de l'époque, le nom du mari. La deuxième histoire concerne une évasion de la prison de Saint-Jean-de-Maurienne en 1735. Au XVIIe siècle, la prison de Saint-Jean-de-Maurienne est connue pour son état de délabrement et pour les nombreuses évasions qui s'y produisent. Dans son ouvrage « Saint-Jean-de-Maurienne au XVIe siècle », le chanoine Saturnin Truchet écrit « La place de l'officialité » la place de l'hôtel de ville actuel, était le centre de la justice. À droite, au rez-de-chaussée des maisons s'ouvraient les banches des études des principaux avocats, notaires, procureurs et praticiens. À gauche, dans l'aile de l'évêché qui s'allongeait jusqu'au clocher, percé d'un passage voûté, la porte Maranche, siégeaient les deux tribunaux de l'officialité et de la judicature temporelle de l'évêché. Au fond de la place, en face du clocher et jusqu'au milieu de la rue actuelle, étaient assis les bâtiments de la Corrie, ou cour commune, composée principalement d'une maison forte et d'une prison. Le geôlier, le gardien de prison, est aussi nommé à cette époque concierge des prisons dans les textes de loi. Le 5 mars 1735, vers les 6h15 du soir, Jean-Thomas Boutal, comte de Pinache, intendant et juge-mage de la province de Maurienne. Le juge-mage, c'est le juge qui est nommé par le duc sur proposition du Sénat de Savoie. Donc, le comte de Boutal est informé par Antoinette Albrieux, veuve de Joseph Combet et geôlière des prisons royales de la ville avec son père Joseph Abrieux, que le dénommé Esprit Latou de la paroisse d'Aussois, accusé de crimes de faux et condamné aux galères perpétuelles, détenu dans les prisons, s'est évadé depuis un demi quart d'heure. Le juge se rend immédiatement sur les lieux, en compagnie de l'avocat fiscal provincial, qui correspond à un procureur actuel, Jean-Baptiste Galis. Arrivés sur place, ils écoutent Antoinette Albrieux. Elle explique. Le dit Latou est allé dans les latrines intérieures de la prison. Il a bloqué la porte avec un morceau de bois. Puis il a arraché la croisée de fer de la fenêtre et passé par cette ouverture pour descendre dans les latrines extérieures qui sont juste en dessous et dont la porte n'était pas verrouillée. De là, il s'est rendu dans le vestibule des prisons par un escalier qui mène à une porte qui n'était pas non plus fermée à clé. Du vestibule, il est entré dans l'auditoire des prisons en utilisant un autre escalier. Cet auditoire est situé au niveau de la cour extérieure de la prison, au bout de laquelle il y a la grande porte qui donne sur la rue et qui était également ouverte. Pendant sa visite, le juge évalue la faisabilité de ce que lui raconte Antoinette Albrieux, constate que la ferrure de la fenêtre des latrines est par terre, que cette croisée était mal enchâssée et placée avec seulement du mortier mais sans pierre de taille, qu'elle fait environ 2 pieds de hauteur pour 1,5 pied de largeur, ce qui fait en gros 16 cm de hauteur pour 46 de largeur, ce qui laisse un passage suffisant pour un homme. Il vérifie également que toutes les portes ouvertes sont bien pourvues de verrous et de serrures, sans toutefois en vérifier l'état ni la présence ou non de clés. Le juge prend instantanément 2 mesures. Il donne des ordres pour faire courir après et faire en sorte d'arrêter Esprit Latou, et il incarcère Antoinette Albrieux. Joseph Albrieux, le père, est absent. Il rentre le lendemain et se trouve immédiatement incarcéré par le juge en attendant que l'avocat fiscal puisse faire prendre les mesures pour procéder à information tant sur la dite évasion que sur les négligences des geôliers. Les geôliers étant en prison, le juge confie les clés au caporal et soldat de justice de la judicature. Tout le déroulement de la visite, les propos tenus et les décisions prises sont consignés par écrit par le greffier, ainsi que le veut la procédure judiciaire en Savoie. Le lendemain, l'avocat fiscal produit sa teneur de remontrance, c'est-à-dire le document par lequel il demande au juge d'enquêter, document dans lequel il précise ce qui est répréhensible à ses yeux et aux yeux de la loi. Il constate que si les fers de la fenêtre ont bien été arrachés par le fugitif, il n'aurait pu s'enfuir si le bon et gros verrou à clé des latrines extérieures avait été fermé et si la porte en haut des escaliers qui mène au vestibule avait aussi été fermée. Il y a donc une faute de la part du concierge, voire de la connivence, ou tout au moins de la négligence. Alors cette présomption de faute, elle est aggravée par le fait que les prisonniers n'étaient pas enfermés dans leur cachot à 6h30 du soir, alors qu'ils doivent l'être 1 heure avant la nuit, et enfin parce que Joseph Albrieux s'est absenté, laissant la garde de la prison à sa fille. La première phase de la procédure judiciaire, qui consiste à reconstituer la scène, est en fait. L'avocat fiscal demande au juge de passer à la deuxième phase, qui consiste à recueillir les aveux en interrogeant les témoins et les accuser. Joseph Albrieux est rapidement interrogé puisqu'il était absent et ne peut en conséquence décrire l'évasion. Les raisons de son absence posent problème. Un prisonnier, Edmond Roux, est produit comme témoin. Originaire de Saint-Rémy, il déclare être âgé de 30 ans environ, être laboureur de profession et avoir environ 70 livres de biens. Il n'est ni parent, allié, créancier, débiteur, domestique des parties, sauf, précise-t-il, qu'il doit au geôlier les frais de geôle. Alors, à cette époque, il existe deux sortes de prisonniers. Les prisonniers pour dette et ceux de droit commun. Alors que les premiers sont détenus dans les cellules situées au premier étage de la prison, les seconds sont dans les trois cachots qui se trouvent au rez-de-chaussée. Pour les prisonniers de droit commun, le concierge doit leur fournir uniquement de la paille, du pain et de l'eau. Et il est rémunéré pour cela par le trésorier provincial. Mais il peut, à la demande des prisonniers et avec l'accord du juge, leur fournir d'autres aliments. Les prisonniers pour dette civile, eux, ont la liberté de se faire fournir des aliments du dehors par leurs parents ou par d'autres personnes. Ils ne sont pas obligés de les acheter au geôlier. Ils doivent simplement passer par les mains des concierges qui les visiteront sans aucune diminution ni altération. Mais ces prisonniers peuvent demander aussi à être nourri à la table du concierge ou et garde de la prison. Et dans ce cas-là, il paye une taxe dont la valeur est fixée chaque année à la Saint-Martin par les juges du Caux, suivant l'abondance ou la cherté des vivres. Edmond Roux prête serment sur les Saintes Écritures, entre les mains du juge tenu, après avoir été dûment représenté et remontré sur l'importance de ce serment. Il ne sait pas comment Esprit Latou s'est enfui. Il raconte que, ce jour-là, vers les 5h30 du soir, Latou lui a dit qu'il avait mal au ventre et que c'était à cause de la soupe aux choux qu'ils avaient mangée le matin. Il se tenait effectivement le ventre. Le témoin, qui se tenait à ce moment-là auprès du feu dans la cuisine des prisons, le voit ensuite monter dans son cachot, prendre son chapeau et disparaître de sa vue. Il confirme que l'Antoinette Albrieux, qui avait coutume de les enfermer dans leur cachot un peu avant la nuit tombante, est arrivée peu après et, ne trouvant pas Latou, lui demande s'il sait où il se trouve. Roux lui répond qu'il doit être aux latrines. Antoinette y court, trouve la porte bloquée par quelque chose qui empêche de l'ouvrir, l'enfonce avec violence, ne trouve pas le prisonnier, voit la croisée de la fenêtre posée par terre et réalise alors qu'il s'est enfui. Le deuxième prisonnier, interrogé aussi, ne donne aucun renseignement supplémentaire. Le juge interroge alors Antoinette Albrieux. Il lui fait aussi prêter serment sur les Saintes Écritures, lui fait jurer de dire la vérité sur le fait d'autrui, mais aussi sur son fait propre. Après lui avoir expliqué les peines qu'encourent les parjures, il ajoute qu'un mensonge sur les renseignements qui la concernent lui vaudrait 50 livres d'amende en plus. Sur les généraux interroga, c'est-à-dire sur son état civil, elle répond qu'elle s'appelle Antoinette Albrieux, qu'elle est la fille de Joseph Albrieux et qu'elle est la veuve de Joseph Combet. Elle déclare être âgée de 31 ans, n'avoir aucun bien et être sans profession. Alors, cette dernière affirmation va se révéler source de problèmes. Lorsque le juge lui demande si elle sait pourquoi elle est incarcérée, elle répond « c'est à l'occasion qu'Esprit Latou s'est évadé des prisons ». À la question « est-il vrai que les trois prisonniers détenus dans les prisons étaient encore libres dans la cour intérieure vers les 6h du soir ?» Elle répond qu'ils ne sont restés dehors que jusque vers 5h du soir. Ah, le juge insiste sur les 6h lorsqu'il lui demande de confirmer que c'est à cette heure qu'elle est entrée dans la cour des prisons pour aller enfermer les prisonniers et qu'elle a découvert qu'Esprit Latou s'était enfui. Elle répond non, c'est bien à 5h30. Alors, Or Antoinette a déclaré l'évasion, selon le document établi par le juge Boutal lors de la dénonciation, vers les 6h15. La question suivante concerne le fait que les verrous de la porte des latrines extérieures et ceux de la porte qui mène au vestibule n'étaient pas fermés. Le juge en demande la raison et explique que leur simple fermeture aura empêché Latou de s'enfuir. Antoinette répond que ces latrines ne tendent qu'à la cour extérieure des prisons et sont à l'usage des concierges. Ils ne pensaient donc pas être obligés de devoir verrouiller ces portes. Le juge demande enfin à Antoinette depuis quand date sa dernière visite aux prisonniers. La question est importante parce que les concierges sont tenus de visiter les prisonniers 2 fois par nuit et 3 fois par jour. Antoinette répond qu'il n'y avait pas un quart d'heure qu'elle avait vu ledit Latou dans la cour. Le juge revient une fois encore sur l'heure à laquelle elle ou son père ont coutume d'enfermer les prisonniers. Antoinette répond tantôt plus tôt, tantôt plus tard, mais toujours une demi-heure avant la nuit et quelquefois même une heure avant. L'interrogatoire est terminé, le greffier relit la déposition, l'accusé y persiste, ne veut rien ajouter ni diminuer et fait sa marque pour ne pas savoir signer. Ceci est assez surprenant puisque les geôliers doivent, selon la loi, savoir lire et écrire pour pouvoir tenir un registre à 2 colonnes dans l'une desquelles ils marquent jour par jour les noms et surnoms de ceux qui sont conduits en prison, par qui, pour quelle cause civile ou criminelle. Et dans la 2e colonne, il marque le jour d'entrée de la prison et celui de l'élargissement ou de la décharge. Le juge lui annonce qu'en raison des accusations qui pèsent contre elle et comme son père, ils doivent maintenant prendre un avocat et un procureur. À cette époque, l'avocat est celui qui écrit le droit, le procureur est celui qui plaide. Le procureur est un homme indispensable dans un procès. Au civil ou au criminel, nul ne peut comparaître au palais qu'assisté par un procureur qu'il faut choisir parmi ceux qu'a agréé le Parlement. Le procureur postule pour les parties. Il trie les pièces à soumettre au juge, il choisit les avocats, il présente les requêtes et les répliques. Avec lui, pas de fausse manœuvre et vous ne risquez pas de porter à votre inventaire de production des pièces dangereuses, ni de convoquer des témoins compromettants, ni de vous égarer dans le choix de votre avocat, ni de mal tourner vos enquêtes, faute de savoir quand il faut se montrer agressif ou bien conciliant, ni de hâter les choses quand il convient au contraire de temporiser. Puis le moment venu, le procureur s'efforce de pousser l'adversaire dans ses derniers retranchements jusqu'à l'arrêt final sur pièce vue. Jean Nicolas, dans son ouvrage « La Savoie au XVIIIe siècle », écrit « Ces manœuvres exigeaient une bonne compétence juridique et une connaissance plus approfondie encore du milieu judiciaire ». Le procureur choisi par Joseph et Antoinette Albrieux se nomme Maître Chausalet. Il est un notable de Saint-Jean-de-Maurienne, connu pour sa compétence. Il a bien senti où se trouvent les failles du dossier. L'état de délabrement des bâtiments de la prison et la situation, que je qualifierais d'anormale, de la fille du concierge. Dans sa plaidoirie, Maître Chausalet développe un premier argument qui consiste à dire que l'avocat patrimonial veut rendre coupable de négligence Antoinette Albrieux. Or, de par la loi, elle ne peut être concierge des prisons puisque le concierge est tenu d'exercer en personne son office et non par aucun commis. Si le procureur maintient qu'elle est concierge des prisons, ce qu'il fait en la déclarant coupable, alors il n'y a plus de faute pour absence de gardien. Et elle a bien fait immédiatement ce qui était prévu en cas d'évasion. La question de l'absence de Joseph Albrieux ne se pose pas de toute façon, puisqu'il a été autorisé à se rendre en détachement dans la paroisse de Saint-Avre par un billet. Essayer de rendre coupable Antoinette pour n'avoir pas rentré les prisonniers une demi-heure ou une heure avant la nuit, n'est pas non plus recevable, car les textes de loi disent seulement que les prisonniers doivent être enfermés la nuit, ce qui est manifestement le cas. Ensuite, si le prisonnier n'avait pas pu desceller les barreaux de la fenêtre des latrines mal posées, la question des serrures fermées ou pas fermées ne se posait pas non plus. Il n'y a donc pas négligence, mais un mauvais état des prisons. De plus, les latrines extérieures sont à l'usage du concierge et de sa famille. Elles n'ont donc pas à être fermées en permanence. Sinon, le concierge doit venir les ouvrir chaque fois que quelqu'un de sa famille veut les utiliser, ce qui le distrairait de son travail dans la prison. Il n'y a donc ni fraude, ni connivence, ni négligence des concierges. Mais inversement, il semble qu'il y ait eu négligence de la part des magistrats, puisque Esprit Latoux étant condamné aux galères perpétuelles, il aurait dû porter des fers. Antoinette Albrieux aurait plusieurs fois signalé l'anomalie aux magistrats, qui se seraient renvoyé le problème, car les fers que possède la prison de Saint-Jean-de-Maurienne étaient trop gros. La loi prévoit bien que les gardiens ne peuvent mettre des fers, sauf s'il se présente quelques cas pressants, mais l'argument ne peut être utilisé puisqu'Esprit Latoux est incarcéré depuis plusieurs jours. Le 13 juin 1736, l'avocat fiscal provincial Jean-Baptiste Gallis énumère les pièces vues qui constituent le dossier, annonce que les accusés sont convoqués pour ouïr la prononciation de la sentence le 16 du courant. Il confirme qu'Esprit Latoux ne s'est pas présenté devant le juge en dépit des 3 lettres de corps prononcées contre lui et notifiées par le sergent Borelier. Il développe ensuite son accusation. Les arguments changent peu. Il n'accuse plus Antoinette d'être concierge avec son père, ce qui lui permet d'accuser Joseph Albrieux pour une absence non motivée. Il évite soigneusement de parler des fers qui n'ont pas été mis aux condamnés pour insister sur les portes non fermées. Il brandit une menace en expliquant que le droit veut que, quand un concierge des prisons laisse échapper un prisonnier par sa faute ou sa négligence, il doit être puni de la même peine que celle qui frappait le condamné. Puis il adoucit ses propos en disant que, finalement, il n'y a pas de dessein ni de consentement du geôlier et de sa fille dans l'évasion d'Esprit Latoux, mais une simple espèce de négligence. Il conclut en disant que Joseph Albrieux et sa fille, Antoinette, sont déclarés suffisamment atteints et convaincus d'avoir manqué de fermer les portes des latrines extérieures et du vestibule, et donc d'avoir par là, en quelque manière, facilité l'évasion d'Esprit Latoux. Il demande, pour punition, 6 mois de prison pour le père et 3 mois pour la fille, la privation pour les deux de l'office de geôlier et la condamnation aux frais et dépens de justice. Ainsi qu'il est prévu par la procédure, le procureur Chosalet fournit ses conclusions définitive. Il fait à nouveau remarquer les contradictions qu'il y a dans les propos de l'avocat fiscal, qui une fois considère Antoinette comme concierge des prisons, une fois dit qu'elle ne l'est pas. Il fait remarquer aussi que depuis que les Albrieux, père et fille, occupent cette fonction, les magistrats n'ont jamais eu de remarques à faire, car les concierges ont toujours bien soigné et visité les prisonniers, ce qu'ils ont constaté, puisque les magistrats sont tenus de visiter leur prison tous les 8 jours. Il revient sur l'absence de fer au pied d'Esprit Latoux, précisant que même s'il n'y a pas de traces écrites des demandes d'Antoinette, le simple fait que Latoux soit condamné aux galères perpétuelles fait qu'il aurait dû en avoir. Et il précise bien que la loi interdit aux concierges d'en mettre ou d'en enlever de leur propre fait. Enfin, il rappelle que si les barreaux de la fenêtre des toilettes avaient été correctement scellés, au lieu d'avoir été placés avec du simple mortier, dans un endroit où le soleil ne donne jamais, ce qui fait que le mortier n'a jamais pu sécher et a donc pu être enlevé avec les mains, eh bien Esprit Latou n'aurait pas réussi à s'échapper. Il demande donc que les accusés soient mis hors de cause, sans recours possible, ni dépens, d'autant plus qu'étant innocents, ils ont déjà passé plus de 3 mois dans les prisons. Le 20 juin suivant, Jean-Thomas Boutal, juge-mage de la province de Maurienne, rend son jugement. Il considère que rien ne prouve qu'Antoinette Albrieux ait été admise à faire les fonctions de geôlière en l'absence de son père, quand bien même il aurait été toléré qu'elle le secondât dans cet office pour la visite des prisonniers et pour leur porter le pain et l'eau et autres choses qui leur peuvent être nécessaires. Il ne résulte pas non plus qu'il y ait eu du dol, c'est-à-dire de manœuvres frauduleuses, ni de grande négligence de sa part, puisqu'elle ne se trouvait chargée de la garde des prisons que par ordre de son père. En conséquence, elle ne doit subir aucune peine et être renvoyée, quitte et absoute. En ce qui concerne Joseph Abrieux, il est condamné pour négligence à la privation de son office de geôlier et condamné aux dépens et frais de justice. Cette condamnation est celle qu'on retrouve le plus pour les concierges des prisons lorsqu'il y a évasion. En tout cas, le père et la fille Albrieux sont remis en liberté. Esprit Latou est sûrement passé en France pour éviter cette sanction fatale que constituait la peine des galères perpétuelles. Il reste malgré tout banni des États de Savoie.